10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Et quel plaisir de vous retrouver comme tous les samedis pour parler d'islam sur Beurre FM avec l'imam Abdelali Mamoun. Bonjour imam Abdelali.
Bonjour Philippe, salam alaykoum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bien sûr à toi, à toute l'équipe de Beurre FM et à, bien entendu toutes nos auditrices et auditeurs fidèles tous les samedis matin. De 10h à 11h avec...
On a récupéré Fodil Belamri.
Ah oui, Fodil surtout, ah, c'était important. Parce que
vous l'avez rendu son euro?
J'ai essayé, il n'a pas voulu.
C'est pas vrai.
Il est trop généreux.
Bah, donnez-le moi à moi.
Bah, je ne sais pas s'il l'avait déjà donné, non pas.
Ah oui, mince.
Ouais,
mince. C'est vrai.
Non, mais t'as vu,
c'est vrai.
T'as vu le racketteur, avez vu le racketteur
vous
en flagrant délit de racketage?
Non, je crois que vous m'avez repris.
Ah, je sais pas.
Non, on l'a donné à Dea. On l'avait donné à Dea.
Ah, on l'avait donné à Dea.
Ah,
ouais, ouais, de toute façon, il est là.
Mais je ne l'aurais pas rendu.
Il est là.
Montrez-le-moi.
Tiens, Philippe, je te le donne.
L'imam sort son gros porte-monnaie.
Voilà.
Voilà, 1 euro.
1 euro, c'est pour.
On ira à la machine qui fonctionne aujourd'hui.
Il m'a prêté 1 euro l'autre jour.
Bien.
J'ai pas oublié.
Bah oui, non, faut.
Amana. C'est important.
Faut pas avoir de dette, en fait.
Ah, moi, j'en ai pas, alhamdoulilah. Je suis bien, je suis content comme ça. Je suis bien.
Bon. Fodil, donc 7 euros, donc tu nous en fais cadeau, donc ça, voilà, ça fait plaisir.
On va le mettre dans la tirelire de la machine à café.
Voilà, c'est ça. Bien, on va commencer par la vertu prophétique du jour et avec un est-ce que c'est un verbe tabadour?
Tadabbur, non, c'est
tadabur,
le radical.
Tadabbur,
c'est le radical. Tadabbur. Le verbe n'est pas très loin. Tadabbara. Hein. Toujours, de toute façon, un verbe ne peut pas terminer par or, Philippe, ou par. C'est tadabbara. Tadabbara, c'est l'infinitif du verbe méditer, contempler. Comment on pourrait aussi traduire ce terme, tadabbara? C'est tout simplement le fait d'être dans la contemplation, être contemplatif, si tu veux, c'est être mutadabbir. Hein. Et c'était bien entendu une vertu caractérisant principalement le personnage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu sais qu'il existe des hadiths, pas des hadiths, ce sont des citations de compagnons qui décrivent le physique du prophète. C'est-à-dire comment il était physiquement. Un jour, on va en faire une émission, Inch'Allah, pour ça, pour parler du physique, comment il était physiquement, parce que bon, il y en a beaucoup qui se mettent dans la tête. Ouais, j'ai vu le prophète dans le rêve. Je leur pose la question, comment il était? Ouais, c'était un visage lumineux avec une barbe blanche. Je dis déjà, t'en es mal barré, parce que le prophète n'a jamais eu de barbe blanche. Le peu qu'il a pu avoir avant de mourir, c'est quelques poils blancs sur le côté de sa frise, de ses cheveux. Mais son visage ainsi que sa chevelure était intégralement de couleur noire. Donc il n'a jamais eu, même peu avant sa mort, il a toujours été avec des cheveux noirs. Bon, ça c'est une petite parenthèse sur son physique, mais le prophète, quand on demande aux compagnons, comme par exemple celui qui l'a mieux décrit, c'est Ali ibn Abi Talib, son cousin, et celui qui a vécu le plus longtemps avec lui, s'appelle Ali ibn Abi Talib, le décrit comme étant quelqu'un de contemplatif, et surtout de très pensif. C'est quelqu'un qui pensait beaucoup. Kana kathirul fikri qalilul kalam. Très peu bavard, très peu, il parlait très peu, et quand il parlait, eh ben il parlait et se répétait trois fois. C'était des sortes de phrases qu'il répétait comme ça trois fois pour qu'il donnait le temps aux compagnons de retenir l'exhortation, la leçon, la morale. Parfois c'était une sous forme de conseil, d'injonction qu'il donnait, ne faites pas ci, ne faites pas ça. Et il le répétait à trois reprises, et ensuite il se taisait jusqu'à que des compagnons l'interrogent. Et il n'aimait pas trop qu'on l'interroge, puisque le Coran nous met en garde déjà dans Sourate Al-Baqara, dans l'histoire de Al-Baqara, qu'il ne faut pas trop interroger les prophètes, parce qu'il y a un certain nombre de choses qui doivent rester du domaine de la vie privée et du domaine de la flexibilité que Dieu accorde à l'être humain. Dieu nous a pas créés comme des robots que l'on doit qui doivent obéir à un programme électronique ou informatique, où est-ce qu'on obéit et on fait exactement la gestuelle que nous demande de faire tout au long de notre vie la parole divine ou celle que nous a transmis le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Non, il y a bien entendu la révélation, qui est un guide pour nous, qui nous permet de nous d'évoluer dans notre vie, mais l'essentiel de notre quotidien reste quelque chose de flexible et personnel. Mais c'est vrai que le prophète encourageait la contemplation, le Coran lui-même, dans une multitude de versets du Coran, eh bien, nous invite à méditer. Alors, méditer quoi ? Quand on dit méditer, Philippe, on parle de méditer
la création,
les signes. Alors les signes, Philippe. On parle des signes. Les signes, c'est-à-dire tout ce qui peut nous permettre de nous orienter vers Dieu. C'est-à-dire un signe, c'est comme un panneau d'orientation. C'est ce qui nous permet d'aller vers une direction. Et bien entendu, la finalité la plus importante, c'est Dieu. C'est tout simplement de cheminer dans ce bas monde vers Dieu en utilisant les panneaux, les signes. Et il y a deux catégories de signes. Vous avez les signes créés, c'est-à-dire la création, méditer la grandeur de la création. On a parlé la semaine dernière de la création du temps, et que l'homme qui vient de découvrir depuis à peine une centaine d'années, ou peut-être un peu plus, 200 ans environ, que nous sommes dans le temps quelque chose d'insignifiant, qu'il y a 300 millions d'années, déjà sur Terre, il y avait des créatures. Contrairement à ce que peut croire certaines religions, par exemple dans le judaïsme, nous sommes, Dieu a créé l'univers il y a 5700 et quelques années seulement. C'est leur conviction. Ils pensent que la Terre n'a que 5700 et quelques années. Alors que chez les musulmans, on n'a pas cette idée-là. Chez les chrétiens, je ne sais pas, mais en tout cas, dans la majorité de l'esprit des gens, on sait qu'aujourd'hui, la Terre a plusieurs milliards d'années, l'univers a plus de 13 et quelques milliards d'années, que nous sommes rien, nous, dans tout ça. Nous sommes quelque chose, déjà dans le temps, dans le côté temporel, nous sommes insignifiants. Hein, une fois, j'ai vu quelqu'un qui avait comparé avec une horloge. Si on devait comparer la période de la Terre, eh bien nous sommes, si on devait compter à minuit, les 20 dernières secondes des 24 heures. Et nous ne sommes que les 20 dernières secondes ou les 10 dernières secondes de cette horloge qui a fait 24 heures et qui correspond au début de la création de la Terre jusqu'à maintenant. Donc on n'est rien du tout dans le temps. De la même manière qu'on n'est rien du tout dans l'espace. L'espace est infiniment grand. Nous sommes une poussière de poussière de poussière. Rien que la galaxie qu'on appelle la Voie lactée dans laquelle nous évoluons, où notre Soleil et son système solaire évoluent, est une poussière. Je parle du système de cette galaxie qu'on appelle la Voie lactée, est une poussière. Et pourtant, elle fait 100 000 années-lumière de diamètre. 100 000, c'est-à-dire la distance que parcourt la lumière en 100 000 ans. Ça, c'est le diamètre de notre galaxie, qui se trouve à quelques millions, 2 ou 3 millions, d'une autre galaxie qui s'appelle Andromède. Cette galaxie d'Andromède fait le double de celle de notre galaxie. Elle fait environ 200 000 années-lumière de diamètre. Et c'est la plus proche galaxie de la nôtre. Et 2 millions d'années-lumière, imaginons la distance que parcourt le Soleil, la lumière, en 2 millions d'années. C'est ce qui nous sépare de la galaxie d'Andromède. On s'en rend pas compte de l'immensité. Et tout ça n'est qu'un minuscule petit assemblage d'étoiles, on parle quand même en milliards d'étoiles. À côté des amas de galaxies qui ensemble elles-mêmes englobent des milliards et des milliards de galaxies, etc. Donc c'est quelque chose de gigantesque dans lequel nous ne pouvons que nous imprégner par cette contemplation, par cette méditation, que de vertu, que d'humilité, d'admiration face à la grandeur du Créateur qu'il y a derrière. Qui est ce qu'on appelle l'omnipotent, l'omniscient, celui qui sait tout et qui peut tout faire. Parce que l'omnipotent, c'est plus fort que de dire tout-puissant. Tout-puissant, c'est par exemple faire tout ce qu'on veut. On peut faire, par exemple, on peut détruire une maison, Mais l'omnipotent, c'est celui qui est capable de faire tout ce qu'il veut au moment où il veut et comme il le veut. Il y a un hadith authentique qui nous rappelle ce qu'on appelle un hadith Qudsi, où Dieu parle et dit, il dit que, ô mes serviteurs, si tout à chacun me demandait au même moment sa demande, sa requête, s'il me faisait une requête, au même moment, je lui accorderais sa requête au même moment où est-ce qu'il me l'a demandé. C'est-à-dire que si tout le monde demandait en même temps quelque chose à Dieu, eh bien, il pourrait leur satisfaire leur requête à l'instant qui suit. Cela, et sans que cela ne diminue en rien sa grandeur et sa puissance et sa royauté. Cela ne diminuerait en rien sa force, quoi. C'est-à-dire, cela ne diminuerait pas. Mmh. Donc, ça montre bien combien il est fondamental d'être dans la contemplation de la création pour justement méditer à travers cela la grandeur et la puissance du Créateur qu'il y a derrière. Voilà entre autres ce que l'on peut dire sur cette contemplation que le prophète avait. Il aimait bien, déjà avant même la révélation, il est resté 5 ans, on en a déjà parlé il y a quelques semaines, de cette période où le prophète est resté méditer dans la grotte de Hira avant de recevoir la révélation. Ça montre bien que cette étape spirituelle est essentielle dans la quête du Créateur, dans la quête de la spiritualité. Voilà.
À quoi elle sert cette vertu finalement ?
Alors cette vertu d'être contemplatif, elle facilite la quête de Dieu.
Contemplatif, c'est pas oisif ?
Non, contemplatif, c'est de méditer.
C'est qu'on est là. Non, parce que contemplatif, ça peut être aussi, on est là, on est assis sur un banc, on regarde.
On regarde, ça. C'est pas être oisif. La oisiveté, c'est un synonyme de fainéantise.
C'est une forme d'inaction.
Non, parce que l'action, elle est psychologique et elle est intérieure. Il y a un travail qui se fait à l'intérieur de soi. Et c'est parfois beaucoup plus éprouvant que de l'effort physique. Il y a l'effort mental, il y a l'effort psychique, qui effectivement, lui aussi, peut être très intense. Sans forcément, quand on parle de yoga par exemple, qui est une activité entre guillemets sportive.
Alors depuis que vous faites du yoga, Imam Abdelali...
Je fais pas de yoga, mais j'ai pas besoin d'en
faire. Vous avez vu faire le lotus il y a pas longtemps en studio.
Ah ouais, c'est vrai, j'aimerais bien voir ça. Mais c'est bon.
C'était le pachy lotus. Non, mais c'est vrai.
C'est mélange avec pachyderme, c'est ça que tu veux dire?
C'est ça, ouais.
D'accord.
Mais de toute façon.
J'apprécie le.
Non, non, mais en fait, on peut être très très souple, en fait. Ça n'a rien à voir avec la morphologie, d'ailleurs.
C'est sûr qu'on est plus facilement souple quand on est plutôt mince que quand on est enveloppé.
Alors, elle sert à quoi cette vertu?
Donc, je disais qu'elle facilite la quête de Dieu par la méditation de la création qui sont les signes de la grandeur et la puissance de Dieu. Et bien entendu, tout cela cultive ainsi la certitude en son existence. Quand vous méditez la grandeur de la création, vous dites c'est pas possible. Tout ça n'a pas pu venir tout seul. Et bien entendu aussi, elle facilite la nécessité de s'en remettre à lui. Le fait de se dire, puisque Dieu existe, puisqu'il est là, il est capable de faire ce qu'il a fait, et ce qu'il peut faire, et ce qu'il fait à chaque instant, je réfléchis à faire en sorte de chercher auprès de lui la puissance, chercher l'aide et le soutien dont j'ai besoin dans ma vie. Et c'est ce sentiment d'être pris en main par Dieu, être enveloppé dans les mains de Dieu, être sous la couverture et la protection divine, que le croyant va ainsi ressentir cette plénitude. Il va ressentir cette béatitude, il va ressentir ce bien-être, un sentiment d'être couvert par Dieu. Mais bien entendu, cela ne l'échappe pas, il ne faut pas que cela le distrait de son devoir de mettre des causes à effet dans la vie. C'est-à-dire, c'est pas « ouais, je m'en remets à Dieu, puis je ne fous rien ». Puisqu'il y a le tawakkul, qu'on appelle le fait de s'en remettre à Dieu, mais vous avez le tawakkul. Alors là, je prolonge bien le « waouh » pour distinguer du tawakkul, qui est le tawakkul, qui est le fait de s'en remettre à Dieu sans rien faire, sans faire aucune cause. Le prophète sallallahu alayhi illustre parfaitement cette notion de tawakkul. Il dit, si vraiment vous vous en remettiez à Dieu comme il se doit, لو كنتم تتوكلون على الله حق توكله لرزقتم, vous seriez nourri, vous seriez comblé de bienfaits de Dieu. كما ترزق الطير, de la même manière qu'est comblé un oiseau. On dit une tête de moineau, Philippe. Une tête de moineau, c'est un moineau, il a un cerveau tout petit. Et pourtant, ce petit moineau, avec son petit cerveau, tardou khimasa, elle sort de son nid le matin avec le ventre vide. Wa tardou khimasa wa ta'oudu bitana. Et elle revient le ventre plein le soir. Elle arrive quand même à subvenir à ses besoins parce que elle fait l'effort de sortir de son nid. Elle fait l'effort de mettre des causes à effet. Donc le tawakkul, ça n'est pas se dire voilà, j'attends que Dieu m'envoie du ciel la nourriture et ce que j'ai besoin. Un jour, Sayyidina Omar al-Khattab, le calife, il était calife, hein, c'était un homme qui était un peu très rigoriste. Hein. Omar al-Khattab est connu pour sa rigueur et sa vigueur. Il voit un homme allongé par terre en train de contempler le ciel en plein jour. Il fout rien, quoi. En gros, un oisif, comme tu disais tout à l'heure, un homme qui, un feignant, un paresseux, qui était allongé et il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Il dit, j'attends qu'Allah il m'envoie le rizq. Qu'Allah il m'envoie ce qui m'est dû comme nourriture, etc. Et là, c'est Omar, il lui donne un coup de pied, il lui dit, lève-toi, fa inna samaa la tumtiru dhahaban wala fidda. Le ciel ne va pas te faire pleuvoir de l'or et de l'argent. Hein, lève-toi et va travailler si tu veux te nourrir. Tawakkal Allah, mais en même temps, comme l'a dit le prophète, aqilha, c'est-à-dire, mets des causes. Hein, c'est l'histoire d'un compagnon qui rentre dans la mosquée, et quand il est sorti, il a trouvé sa chamelle qui était perdue. Et là, il re-rentre dans la mosquée, il dit, ah, Rasulallah, ma chamelle est partie. Il a dit, mais pourquoi tu l'as pas attachée? Il a dit, non, je m'en suis remis à Dieu. Tawakkal tu ala Allah, qultu inshallah, va rester là, la chamelle. Et là, le prophète lui a dit, aqilha wa tawakkal. Hein, plante le pieu et attache-la au pieu et ensuite tu peux t'en remettre à Dieu. C'est pas tu t'en remets à Dieu et tu mets aucune cause pour que justement tu puisses obtenir d'Allah subhanahu wa ta'ala ses bienfaits. Voilà une de ces il y a beaucoup de choses à dire.
Une vertu de justement
du prophète qui était, comme je le répète, était quelqu'un de d'apaisé. On le voyait de loin, il était entouré d'une aura angélique qui lui donnait une prestance extraordinaire et qui faisait de lui quelqu'un d'attirant. Il y a Sayyidina Ali ibn Abi Talib, toujours quand il décrit le prophète, je terminerai avec cette parole de Sayyidina Ali, il disait que quand on le voyait de loin, on avait peur de lui. Il inspirait la peur quand on le voyait de loin. Et quand on le voyait de près, il inspirait l'amour. Il inspirait l'envie de le fréquenter. Man ra'ahu min bu'din faqad haba wa man khalatahu ma'rifatan ahabba. Voilà comment disait Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu, que Dieu l'agré, de son prophète bien-aimé Mohammed, son cousin sallallahu alayhi wa sallam, et son beau-père.
Bien, on va évoquer dans un instant une nouvelle période de la vie du prophète Imam Abdel Ali, la période notoire. C'est l'Islam au présent et vous êtes avec nous jusqu'à 11h.
L'Islam au présent revient dans un instant. Beurre FM, 10h, 11h, l'Islam au présent avec Philippe Robichon.
Et l'imam Abdelali Mamoun qui est avec nous, est-ce que l'imam autorise le port des pulls moches de Noël?
Des pulls?
Des pulls moches de Noël, est-ce qu'on a droit?
Je ne sais pas de quoi tu parles.
Vous ne connaissez pas la mode des pulls moches de Noël?
Des pulls moches?
Oui, on appelle ça des pulls moches de Noël.
Je ne sais pas, qu'est-ce que c'est?
Tu n'as pas vu?
Non.
Tu vous verrais bien dans un pull moche de Noël?
C'est un pull comme celui-là que tu as sur... Mais il n'est pas moche le tien, il est beau. T'as un beau pull.
Il est moche, c'est des pulls de Noël.
Non, c'est vrai, c'est
ouais, ça, c'est une mode. En fait, maintenant, ils font des pulls de Noël.
Ah, je savais pas.
Tu savais pas?
Écoute, c'est tous les moyens.
Je vais en trouver un pour vous.
Pour faire du pognon et va dire motiver le commerce.
Ah, c'est
le marketing, c'est sûr que c'est
très bon pour le.
Il y a des modes. Chaque fois, il sort une mode pour vendre. Il faut vendre, Philippe, faire de l'argent. C'est très important. Les fêtes, c'est à ça.
Bien, on va.
On a même inventé Halloween, le Friday, je sais pas quoi, Black Friday. Ça y est pas ça il y a 20 ans. Tu te rappelles, toi, tu te rappelles de Halloween il y a 20 ans, même 30
ans? Quand je dis aux gens que c'est une fête commerçante, ils me disent, mais non. Je lui dis, mais vous croyez que nous, on a grandi avec Halloween?
Il n'y avait pas Halloween. Et puis celle-là, la Black Friday aussi. Là.
Alors, c'est pourquoi Black Friday? Parce qu'en fait, c'était le...
Le jour où on vendait des esclaves.
Alors, je sais pas
si... Il y a longtemps. J'ai lu ça.
Là, ils en ont fait... C'est parce que c'était très calme, en fait, dans les commerces, dans les magasins. Et donc, ils se sont dit, pour booster la consommation, on va faire le Black Friday.
Voilà. Ouais.
Et on a hérité de ça. Alors on va évoquer une nouvelle période de la vie du prophète, Imam Abdel Ali, ce qu'on appelle la période notoire. Donc j'imagine que si vous parlez de période notoire, c'est par opposition à une période qui était plus discrète.
Plus discrète et même secrète, qu'on appelle da'wa sirriya. Donc la période sirriya, qui était donc tout au début de la révélation, pendant 3 ans, le prophète reçoit l'ordre, bien entendu, de transmettre la révélation, et il va avoir un quartier général. Ce quartier général.
Mais c'est vraiment le nom qu'on lui a donné, la période discrète.
Oui. Ça, c'est... Dawa al-Sirriya, c'est-à-dire la prédication secrète. C'est cette période discrète, secrète, où le prophète prêche la bonne parole sans crier sur les toits, sans l'annoncer à tout le monde, sans alors qu'il pourrait le faire. C'est un notable. N'oublions pas que le prophète est un notable. Il pourrait réunir tous les gens, oyer, comme on disait à l'époque, serait demander aux gens de venir autour de lui. C'est ce qu'il va faire après.
Oyer, c'est après.
Oui, mais oyer, c'est-à-dire c'est un petit peu pour que les gens comprennent que il y avait la possibilité de faire des annonces. Les gens pouvaient réunir la population autour d'eux pour faire des annonces quand elles étaient importantes. Alors si bien entendu l'annonce était pertinente, eh bien il était loué et remercié. Si au contraire elle était détestable ou impertinente, eh bien il se faisait on va dire insulté et humilié. Donc voilà, le prophète donc va profiter de cette réalité sociologique dans lequel il vit à la Mecque avec des gens qui diffusent leur information non pas dans des journaux, dans des Snapchat ou dans des WhatsApp et compagnie, c'est tout simplement en surmontant des petites collines. Par exemple, vous avez le Jabal Abi Qubais ou Jabal Safa, etc. Donc des montagnes qui se trouvaient à la Mecque. Et du haut de ces collines, il s'adressait à la population en criant « Oye, oye !» Donc pas « Oye, oye !» comme on le dit en français, mais avec leur terme à eux. Il criait « Ya ma'ashara Quraysh, ya ma'ashara, ya ma'ashara !» Ça veut dire « Oh, vous, peuple de ceci, cela !» Et les gens venaient pour l'écouter et écouter ce qu'il allait leur annoncer. Donc cette période qui a précédé cette annonce publique, cette période notoire, est vécue par le prophète et ses compagnons de manière très très contraignante, très difficile, parce qu'il sait que toute personne qui est surprise en train d'adorer Allah, c'est ce qui va se passer pour Bilal, c'est ce qui va se passer pour beaucoup de compagnons, notamment les fils des notables, eh bien ils vont tout simplement se faire punir, se faire persécutés, ils vont subir parfois même des tortures, ils vont subir des châtiments corporels jusqu'à tenter de les dissuader de continuer à suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cette période-là, on l'appelle la période donc sirriya, donc secrète, dont le pilier central était Abu Bakr Siddiq. Le quartier général de cette période, c'était la maison de Al-Arqam ibn Abi Al-Arqam, qui se trouvait approximativement au sud du mont de Safa, puisque le mont Safa est déjà au sud de la Mecque, donc légèrement au sud de la Kaaba, je veux dire, du sanctuaire sacré. Et au sud de cette montagne qu'on appelle Safa, vous aviez la maison de Al-Arqam ibn Abi Al-Arqam, sachant que le prophète, lui, habitait avec Khadija au nord du sanctuaire, dans la région du Marwa, c'est-à-dire le fameux mont où est-ce que on est censé se diriger quand on fait le rituel du parcours entre Safa et le Marwa, qui se trouve à l'est de la Kaaba. Vous avez la Kaaba à l'est, vous avez ce fameux parcours qui sépare la montagne de Safa du Marwa. Donc le Marwa, c'est là où habitait le prophète. Donc légèrement à côté du Marwa, c'est la maison de Khadija et donc du prophète alayhi salat wa salam.
Et là, pendant le Hajj, on le fait combien de fois?
Donc le parcours, on le fait deux fois. C'est-à-dire le rituel, on le fait deux fois. Et chaque fois, c'est sept fois l'aller et retour. Donc l'aller, sachant qu'un aller, ça veut dire un. Et au retour, ça fait deux. Et on commence au Safa et on termine au Marwa. Donc on fait...
Donc on fait fois sept.
On fait fois
sept. On fait sept allers-retours.
On fait sept fois. Non, pas aller-retour, attention. C'est pas sept fois aller-retour. C'est sept fois en sachant que du Safa au Marwa, ça fait un trajet. Et du Marwa au Safa, ça fait deux.
Ah oui, d'accord.
Un aller-retour.
Il n'y en a que sept en tout.
Et donc on commence au Safa et on termine au Marwa parce que c'est un nombre impair. Forcément, d'accord, tu vas terminer sur le mont Marwa. Et en sortant du mont Marwa, c'est là où le prophète habitait, où il y avait la maison de Khadija. Alors qu'au côté Safa, au sud du Safa, vous aviez la maison de Al-Arqam ibn Abi Al-Arqam. Sachant que, par exemple, le calife Omar, qui va devenir calife, mais au début, il n'est qu'un Mekwa parmi les Mekwa, d'une grande tribu qu'on appelle les Bani Makhzoum, Bani Adi, donc sa mère est Bani Makhzoum et son père est un Bani Adi, je parle de Omar al-Khattab, eh bien, lui va il va habiter de l'autre côté, côté ouest. Donc la partie ouest de la Kaaba, dans un endroit qu'on appelle aujourd'hui Jabal Omar. C'est la montagne de Omar. Et pourquoi on l'appelle Jabal Omar? Parce que c'est Omar, il habitait là-bas. C'est là où est-ce qu'on sa demeure, elle était là-bas. Et pas très loin de Omar, vous aviez au sud, plus au sud, la maison de Abu Bakr Siddiq. Là, on parle de la Mecque, attention. On parle pas de Médine. Vous avez les demeures des compagnons et du prophète à Médine. Et vous aviez celle de la période mécoise avant celle de Médine, où les personnages de l'islam, qui au début sont pas musulmans et vont se convertir, eh bien, vivaient, ou bien entendu, tous autour de ce sanctuaire qu'on appelle Al-Masjid al-Haram, c'est-à-dire le sanctuaire sacré, la mosquée sacrée de la Mecque. Donc, Abu Bakr al-Siddiq, pourquoi on dit qu'il est le pilier de cette période-là, de la période secrète? Parce qu'il va racheter les esclaves qui sont persécutés, qui sont torturés, qui sont humiliés, qui font l'objet de punitions très très sévères, parce qu'ils refusent de renier la foi du prophète. Donc on avait dit Omar ibn Yasir, on en a parlé la semaine dernière, mais il y en a d'autres. Il y a par exemple Bilal, on parle de Bilal ibn Rabah, le Habashi, le fameux Éthiopien, qui bien entendu est un grand compagnon que l'on connaît comme étant le Mu'ezzin, c'est-à-dire celui qui faisait l'appel à la prière à la Mecque, à Médine et même à Jérusalem. Il est le premier homme à avoir fait l'appel à la prière à la Mecque, ensuite le premier à avoir fait à Médine et le premier à l'avoir fait à Jérusalem après la conquête de Jérusalem. Allah yaharrha ya rabbal alamin. Donc Sayyidina Abu Bakr Siddiq va affranchir. Comment il va faire pour les affranchir? Il va les acheter. Donc il va utiliser son argent propre pour acheter les esclaves. Tous les esclaves qui sont persécutés, eh bien il va les racheter. Alors il va acheter qui? Il va acheter Bilal, on en a parlé. Il va acheter un autre qui s'appelle Amr ibn Fuhayra. Alors Amr ibn Fuhayra, il va jouer un rôle important pendant l'immigration. C'est lui qui va, avec les moutons, parce que c'est un berger de moutons, il va effacer les traces du passage du prophète de Abu Bakr avec les moutons. Il va faire en sorte que là où le prophète y passe, lui il est derrière avec ses moutons, et les moutons qui marchent sur les traces du prophète, eh bien forcément va effacer les traces, puisque c'était des véritables pisteurs. À l'époque, ils étaient un peu comme les Indiens hein, d'Amérique. C'est des pisteurs capables de savoir si une personne est passée par là il y a un jour, il y a 24 heures, il y a 2 heures, il y a 3 heures. On parle de traces fraîches, de traces plus anciennes, etc. Lourdes, si elle était composée d'une personne. Voilà, on était capable de déchiffrer les traces au sol. Et donc, Amr ibn Fuhayra, pendant l'immigration, il va jouer un rôle de cacher, de dissimuler, d'effacer les passages du prophète et de son maître, le maître de Amr, qui était Abu Bakr Siddiq, qui, je rappelle, l'a affranchi. Donc, il n'est plus esclave, il est maoula. On dit maoula, je vous avais parlé la semaine dernière des catégories de citoyens. Vous avez l'esclave, vous avez le maoula et vous avez le notable, l'arabe pur. Quoi. Vous avez l'arabe Qurashi, le Qurashi, qui est le Mécois pur, et les autres qui sont des mawali, c'est-à-dire des hommes libres, mais qui sont sous la protection d'une tribu. Et en l'occurrence, Amr ibn Fuhayra était issu de la tribu de Abu Bakr. Donc c'est un Taymi. Et il était persécuté par la tribu des Taymi. Donc il va le racheter, Amr ibn Fuhayra. Il va racheter Zinira qui était une femme, le souffre-douleur de Abu Jahl. Vous savez, le fameux Amr ibn Hisham, qui était le pire ennemi du prophète, qui va mourir à Badr. Zinira était une romaine, une femme romaine qui était esclave. Elle était esclave. Donc, il va l'acheter et l'affranchir. Elle aussi va devenir Maoula Abi Bakr Siddiq. Elle s'appelle Zinira. Vous avez aussi Abs, une femme des Bani Taïm, et Soumaïa bint Khayyat, la mère de Ammar ibn Yasser. Elle aussi, c'est une des femmes que Sayyidina Abu Bakr Siddiq va acheter de son argent. À tel point qu'à la fin, il n'aura plus d'argent. Au bout des 3 années de la période secrète, Sayyidina Abu Bakr Siddiq va être complètement ruiné par l'achat d'esclaves, parce qu'à chaque fois, on lui demande le prix très fort. Pas le prix fort, le prix très 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 fort. 3-4 fois le prix d'un esclave de équivalent. C'est-à-dire, donc tout ça pour pouvoir libérer, affranchir. Et donc c'est ce que va faire Sayyidina Abu Bakr Siddiq. Dieu va lui reconnaître ce mérite et va même révéler un verset qui va directement témoigner de ce courage, de cet altruisme, de cette générosité d'Abu Bakr Siddiq, quand Dieu dira dans le Coran فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. Et en ce qui concerne celui qui a donné et a fait preuve de piété, وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى, et aura cru à la récompense de l'au-delà, فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى, nous lui accorderons une facilité dans l'au-delà pour qu'il accède au paradis. Ce verset-là, les savants sont unanimes, et le prophète lui-même le confirme, qu'il a été révélé pour en faveur de Abu Bakr Siddiq. Alors, il y en a qui, on l'appelle Abu Bakr, c'est le premier calife de l'islam, tout le monde le connaît, mais est-ce qu'on connaît son vrai nom? Son nom s'appelle Abdullah ibn Uthman. Son père, il s'appelle Abu Quhafa. Par exemple, Abu Quhafa, le père de Abu Bakr, un jour va lui dire, il est où ton argent? Il est où ton argent? Parce qu'il avait dépensé tout son argent. Et donc, il va poser la question, son père, où est son argent? Qu'est-ce qu'il va faire, Abu Bakr? Pour ne pas peiner son père, il va mettre des cailloux dans la trousse, dans le fameux sac où il mettait son argent. Il va mettre des cailloux et il va les présenter à son père. Il va lui dire, tiens papa, regarde, la trousse, elle est pleine d'argent. Et tout ça pour rassurer son père qu'il avait encore les moyens de subsistance et qu'il n'avait pas à craindre de la pauvreté, alors que le gars, il avait déjà tout perdu son argent pendant cette période secrète. Et donc, suite à cela, on va passer à une période jahriya, c'est-à-dire notoire, où le prophète, alayhi salatu wassalam, va recevoir l'ordre d'abord d'annoncer le message à sa tribu. Alors, avant cela... vous avez deux personnages très importants qui vont se convertir et qui vont jouer un rôle clé dans cette période notoire, dans cette période publique qu'on appelle al-da'wa jahriya, la période où est-ce qu'il va diffuser de manière notoire et publiquement, sans se cacher, sans se dissimuler, il va annoncer aux gens qu'il est le prophète de Dieu. Et donc, ce qu'il va faire, d'abord, on va constater, d'abord, Dieu va vouloir guider le cœur de deux personnages importants qui vont devenir les piliers de cette période notoire, qui sont Hamza ibn Abdel Muttalib, l'oncle du prophète, c'est le benjamin de la famille d'Abdel Muttalib. Juste avant Abdullah, c'est le tout dernier des enfants de Abdul Muttalib, qui est le père du prophète Mohammed sallam. Abdullah, le grand frère de Abdullah, qui tout de suite après lui, c'est Hamza. Et Hamza est par exemple à la fois l'oncle du prophète, l'oncle paternel du prophète, mais aussi son frère de lait, parce que quand il est petit, Hamza va avec le prophète vivre avec chez Halima Sa'diya. Halima, la fameuse nourrice, est celle qui a allaité le prophète chez les Bani Sa'd, dans la tribu de Qais. Et donc, Hamza, qui est donc l'oncle du prophète, et l'autre personnage important, c'est trois jours plus tard, après la conversion de Hamza, c'est Omar ibn al-Khattab qui va se convertir. On va consacrer, si tu le veux bien, la semaine prochaine, une émission, c'est-à-dire une partie spéciale pour parler de comment s'est converti Sayyidina Omar al-Khattab à l'islam et toute l'histoire qui relève de sa conversion. C'est très intéressant de connaître comment ça s'est passé. Et c'est de là que commencera, bien entendu, cette interrogation que fera Sayyidina Omar, qui dira au prophète, Ya Rasul, alasna ala al-haq, ne sommes-nous pas dans la vérité? Et là, le prophète dira, bien sûr que nous sommes dans la vérité. Et il dira ensuite, mais ne sont-ils pas dans le faux? Alaysu ala al-batil, ne sont-ils pas dans l'erreur, dans le faux? C'est-à-dire, en parlant de Quraysh, les polythéistes, le prophète dit, bien sûr qu'ils sont dans l'erreur, c'est pour ça que j'ai été envoyé. Et là, il dira à Sayyidina Omar, falima narda ad-daniyata fi dinina, pourquoi on accepte l'humiliation de rester caché? Pourquoi on reste enterré comme des rats? Pourquoi on doit se cacher dans des trous et ne pas pouvoir dissimuler, propager notre... C'était un homme d'un très grand courage, un homme réputé pour son audace, son enthousiasme et sa détermination à ne jamais cacher, même le jour de sa hijra, à tel point que tout le monde part en cachette de la Mecque pour aller à Médine. Il est le seul à le faire publiquement et de manière notoire. Il va se mettre devant Quraysh en disant « Voilà, je pars pour Médine !» En tant qu'immigré, celui qui veut voir sa femme veuve ou ses enfants orphelins, qu'il me rejoigne derrière cette montagne. فَلْيَتْبَعْنِ وَرَاءَ هَذَا الْجَبَلِ. En parlant du chemin qui menait vers Médine, il dit que celui qui veut mourir, en gros, celui qui veut mourir et qui est capable de m'empêcher de partir à Médine, faire ma hijra, eh bien, qu'il vient me suivre derrière la montagne. Il avait peur de personne, Sayyidina Omar. Et de la même manière que Hamza était lui aussi. On en parlera la semaine prochaine de ces deux conversions, Hamza et Omar, qui sont les deux personnages piliers de cette période notoire, et on s'arrêtera quelques instants pour parler de cette période importante.
Alors, cette période, elle a duré en gros combien de temps? C'est de quelle date à quelle date?
La période notoire?
Oui.
Eh ben, c'est tout. Après, c'est-à-dire que...
C'est jusqu'à la fin, jusqu'à la mort du prophète?
Non, jusqu'à l'immigration.
D'accord.
Jusqu'à l'immigration, les hijra, voilà. Donc, il y a trois années où est-ce qu'il est une période serria, secrète, et une dizaine d'années... Ou est-ce que c'est une période notoire? Mais juste avant l'immigration du prophète, il va y avoir deux événements importants qui vont déclencher le processus de l'immigration, c'est al-bay'atayn et al-aqaba. Ce sont les deux pactes d'allégeance des Médinois. C'est-à-dire qu'il va y avoir des tribus médinoises, des délégations médinoises qui vont venir se convertir à Aqaba. C'est quoi Aqaba, Philippe ? Eh bien, c'est là où se trouvent les Jamarat. Tu connais les Jamarat, hein, quand on parle du pèlerinage, vous avez les trois stèles de lapidation. Eh bien, la grande Jamara, elle se trouve en haut d'une petite montagne, d'une petite colline. Une petite colline et qui est quand même assez rude. Hein. Moi-même, je l'ai fait une fois. Je l'ai regretté parce que j'ai eu des ampoules aux pieds en montant la pente parce qu'elle est très très raide et très fatigante à monter.
Moi, je vous avais dit de pas y aller avec vos Louboutins.
Je te promets, j'ai souffert.
J'ai un souvenir de ce.
Pourtant, il y avait du monde qui attendait à la station de bus. Tout le monde prenait le bus pour monter en haut. Ouais. Et moi, j'ai dit non, je vais aller à pied. Et je suis monté à pied. Je voyais les bus monter et descendre. Non, mais les sandales, ça n'a rien à voir. C'est la montée qui est très, très contraignante. Et une chaleur, Philippe, on parle de 45, hein, qu'on est à 45 degrés sous le.
Vous avez l'habitude, pourtant.
À l'ombre, hein, on est.
Mais pourtant, vous avez l'habitude.
J'aime bien, effectivement. En tout cas, j'ai pas détesté cette expérience. En tout cas, je l'ai vécu. Et c'est cette montagne de l'Aqaba, en haut de la montagne de l'Aqaba, qui va avoir lieu secrètement, ces allégeances, ces pactes, ces deux pactes d'allégeance. Une première l'année 10 et une autre l'année 11. Et ensuite, en fin d'année de l'année 12, le prophète va rejoindre, et puisque les compagnons vont commencer à partir l'année 12 de la révélation, donc un an avant l'immigration, les compagnons vont commencer à partir devant lui, avant lui, plein. Lui, il est un des derniers à partir. Il faut savoir que le prophète est l'un des derniers à quitter la Mecque, et même quand il quitte la Mecque, il va le regretter, il va s'adresser de loin à la Mecque, alors qu'il est, sur une montagne, il regarde la Mecque de loin, et il parle à sa ville, et il lui dit, إِنَّكِ لَأَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَيْهِ. Tu es certes la ville que j'aime le plus au monde. وَلَوْ مَا أَنَّ أَهْلِكُوا أَخْرَجُونِي مَا خَرَجْتِ. Que si ça n'avait pas été ton peuple qui m'avait chassé, je ne serais jamais sorti de cette ville, en parlant de la Mecque. Donc cette période mécoise est fondamentale. Nous continuons, Inch'Allah, notre péripétie les semaines prochaines, Inch'Allah ta'ala.
Bien, et dans un instant, une nouvelle question d'enfant que je vous poserai, Imam Abdelali Mahmoud. Je rappelle que Maître Serhan est là à partir de 11h pour ses tout droits.
Est-ce qu'il a ramené Ghost aujourd'hui?
Alors, je ne sais pas si. Alors, il vaudrait mieux pas que Maître Serhan ramène Ghost Serhan aujourd'hui, boy. Parce que j'ai bien black peur boy. que Kiki Mamoun finisse en kebab.
Même pas un œuf gobé.
J'ai très peur pour Kiki Mamoun.
Parce que c'est vrai que Daya, elle est là et elle a ramené son hamster.
Je ne suis pas sûr. Si Maître Serhan vient avec hamster, Ghost.
C'est vrai que ça.
Bon, de toute façon, il faut bien mourir de quelque chose. Hein.
Voilà. Et s'il doit mourir, autant qu'il s'assoit, il meurt, on va dire rapide.
Rapidement, ça veut dire voilà. Et Ghost Serhan, il a...
Peut-être un peu violent.
Mon Dieu. On va voir si Maître Serhan vient avec Ghost dans un instant. Donc, une question d'enfant sur Beurre FM.
L'islam au présent revient dans un instant. Beurre FM, 10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon.
Imam Abdelali Mamoun, spécial dédicace pour Mehdi Omra. Qui nous écoute, qui m'a envoyé sa rotba avec 24 heures de retard cette semaine.
Je lui souhaite plein de bonnes choses à mon frère Mehdi. Qu'Allah lui donne la réussite, le succès dans ce bas monde et puis la félicité dans l'au-delà, Inch'Allah. La bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ybarak fik akhi, sallallahu alayka tawfiq. Parce que bon, moi, dédicace, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais bon, allez, j'ai une dédicace.
À la radio, on appelle ça des dédicaces, mais c'est un mot.
Moi, je préfère da'wa saliha. Je suis sûr qu'il doit apprécier plus la du'a que la dédicace.
Et puis, on pense à sa sœur à qui on souhaite une bonne santé.
Inch'Allah, shafiha. Allah yard la shifa wa sahha wa al'afiya.
Bon, Mehdi, j'espère que tu seras avec nous pendant ce mois de Ramadan. Question d'enfant, comme chaque semaine, Imam Abdelali Ali, si Dieu est un être tout puissant d'amour et qui aime la paix, pourquoi il nous parle tant de djihad dans le Coran ?
Alors c'est vrai qu'il y a environ un peu plus de 40 versets où on peut retrouver cette expression de djihad. Donc effectivement, la notion de djihad est citée dans le Coran une quarantaine de fois. Alors, d'abord, il faut savoir que l'expression jihad n'est pas toujours pour parler de combat. Mais par contre, on ne peut pas dire que c'est jamais pour parler de combat. C'est aussi pour parler de combat. Alors, on parle de quoi quand on parle de combat ? On parle de al-jihad bin nafs, c'est le fait de se battre avec son être.
Alors c'est l'effort sur soi. Mais
non. Mais jihad bin nafs, jihad bin nafs.
Oui, c'est pas pareil. C'est pas le combat contre soi-même.
Non, pas du tout.
Ah bon.
C'est combattre, lutter, c'est-à-dire faire la guerre, combattre l'ennemi, mais en mettant en péril, en risquant sa vie.
Ah bon.
C'est-à-dire que là, c'est pas la même.
C'est pas quand on combat son ego.
Les deux existent, mais ce n'est pas la même expression. Il y a jihad al-nafs, qui est le fait de combattre son alter ego, ses mauvaises pulsions, etc. Donc combattre son nafs, c'est jihad nafsahu al-amara bisso, etc. Donc c'est un jihad spirituel. Mais vous avez jihad bin nafs, c'est-à-dire le fait de lutter et de faire l'effort en donnant son corps en sacrifice. Et donc, de quoi on parle? Qu'est-ce que nous racontent ces 40 versets du Coran qui évoquent cette question de combat, de lutte, etc. Ils parlent tout simplement de réaliser notre raison d'être dans ce bas monde. C'est-à-dire le fait de faire régner l'ordre, d'imposer la justice et la paix. Parce que, malheureusement, les démons, les soldats du diable, les soldats de Shaitan, parfois suscitent chez certains individus l'envie de commettre l'injustice. Et on ne peut pas rester les bras ballants, indifférents face à cette injustice. Nous devons agir, nous avons le devoir d'agir. Mais pourquoi Dieu alors nous cite 40 fois? Ben, tout simplement pour réguler, pour tout simplement nous dire attention, oui, il y a le jihad. Mais étant donné que les conséquences sont quand même pas qu'un peu dramatiques, mais énormément dramatiques, parce qu'il y a derrière cela des vies humaines qui vont partir, qui peuvent être perdues. Eh bien, Dieu va nous apprendre et nous enseigner les règles de cette lutte armée. Cette lutte armée doit se faire tout simplement par des moyens militaires et réguliers. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de jihad que seulement dans le cadre d'une armée régulière. Il n'y a pas de gars qui porte un sac à dos qui dit « moi je vais partir au jihad, appliquer le verset du Coran qui nous dit de faire le jihad, je prends un sac à dos et je vais rejoindre je ne sais quelle armée mercenaire et je vais pratiquer le jihad ». C'est du n'importe quoi. Quand on parle de jihad, on parle d'armée régulière. Donc c'est le soldat du contingent de l'armée et qui est le mujahid, que l'on appelle dans le Coran celui qui pratique le jihad.
Alors, quel est votre numéro de téléphone, Imam Abdelali?
06 29 25 35 00, 06 29 25 35 00 pour la Ramla du 10 au 22 février. Je répète, du 10 au 22 février 2024, une superbe Ramla en ma compagnie, bien sûr, au 06 29 25 35 00.
Retrouvez l'islam au présent en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.